Vous écoutez, on lit pour vous.
Nature, masculinisme et mâle alpha. Un texte de Boucard Diouf, paru le 23 novembre 2024 dans la presse. Je sais que j'arrive encore en retard dans ce débat qui a secoué le Québec à la suite de la sortie du documentaire sur les mâles alpha et de la participation d'un masculiniste à Tout le monde en parle. Avant d'aller plus loin, je dois préciser que je suis de ceux qui pensent que museler la parole de ces gens n'est pas la solution. Depuis toujours, exposer les trolls à la lumière est la façon de les faire exploser, dit une sagesse norvégienne. D'ailleurs, si Julien Bournival avait pu entrevoir la désastreuse suite de son passage sur le plateau de Guy Lepage le 10 novembre 2024, il aurait certainement choisi de rester discret dans sa chambre d'écho. L'histoire nous a démontré ultérieurement que ce monsieur qui semble prôner le masculinisme par le prestige et la richesse brillait économiquement d'une lumière bien artificielle. Cela dit, rassurez-vous, loin de vouloir revenir sur l'émission, je veux plutôt inscrire le phénomène dans la biologie, car les mâles alpha citent souvent les loups et nos cousins, les grands singes, pour justifier leur phallocratie qu'ils essaient de faire passer pour une simple idée conservatrice. On doit l'expression « mâle alpha » aux travaux de l'écologue suisse Rudolf Schenkel réalisés sur les loups dans les années 1940. Cette idée a ensuite rapidement fait son chemin dans le monde des biologistes du comportement pour se muer en définition du mâle le plus fort. Chez les loups, qui représentent l'emblème de cette misogynie qui sévit sur la toile, la grande spécialiste Ellie H. Radinger, autrice de « La sagesse des loups », raconte que lorsqu'une décision est vraiment cruciale, c'est la femelle alpha qui tranche. C'est elle qui décide du lieu, du moment ou de la façon d'organiser la chasse, mais aussi de l'endroit où creuser la tanière. Ici, le mâle alpha est bien plus un chef qui veille à la cohésion sociale qu'un porteur d'une génétique de brute et de domination sur son chromosome Y. À côté des mâles alpha, existent depuis toujours des femelles alpha. Malheureusement, ces dernières n'ont historiquement pas suscité autant d'intérêt pour le patriarcat scientifique que les mâles. J'ai bien dit « historiquement ». Car les choses ont changé. La science a fait de grands pas vers une compréhension plus équilibrée des phénomènes de dominance. Chez les chimpanzés et les bonobos, qui sont les plus proches cousins de notre espèce, le sujet a été vulgarisé par le brillant et regretté primatologue Franz de Waal dans plusieurs bouquins dont « La politique du chimpanzé »,« Le bonobo », Dieu et nous est différent, le genre vu par un primatologue. Si les masculinistes, qui se disent mâles alpha, plongeaient dans ces livres, ils y découvriraient des informations pour les ramener sur le droit chemin. Ils y apprendraient que, chez les chimpanzés, le rôle du mâle alpha, qui veut durer sur le trône, est bien plus celui d'un conciliateur au service de la paix dans le groupe. Les chimpanzés mâles sont plus forts, plus grands et ont de plus grosses canines que les femelles. Mais ils ne musclent pas leur corps dans des clubs de gym pour attirer et soumettre les femelles. Chez les primates, dit l'auteur, les mâles sont parfois des brutes épaisses, mais ils n'ont pas expressément acquis leur agressivité et leur taille pour dominer et imposer aux femelles leur volonté. La sélection naturelle ne leur a pas donné ce corps de culturiste pour en faire un cave alpha. La force physique d'un mâle lui est surtout utile dans les luttes de pouvoir qu'il oppose aux autres mâles. Elle fait office d'arme d'affrontement, mais aussi de dissuasion pour décourager ses adversaires d'engager un combat. Le mâle alpha des chimpanzés n'est pas toujours le plus fort et le plus combatif. En cause, dit De Waal, s'il a le soutien des femelles et de bons amis et alliés qui le rendent heureux, le mâle le moins fort d'un groupe peut devenir le dominant. accéder à cette position, dit-il, doit à d'autres critères, y compris le réseau, l'âge, la personnalité et les compétences stratégiques. En plus, si les mâles alpha changent au gré des luttes de pouvoir, le règne d'une femelle alpha peut défier le temps. Autrement dit, le pouvoir des femelles est bien plus durable que celui d'un mâle alpha et son influence dans le groupe bien plus significative. Il y a aussi le cas des bonobos, qui méritent d'être racontés aux masculinistes qui se disent des mâles alpha. De tous les grands singes, les bonobos sont l'espèce qui a donné le plus de fil à retordre au patriarcat scientifique. La découverte de leur monde dans les années 1930 avait secoué vivement le discours anthropologique dominant. Quand on hisse la guerre, la violence et la domination masculine au centre de l'évolution des primates, difficile d'expliquer comment un cousin si proche de notre espèce est devenu un animal qui préfère l'amour à la guerre. Aussi, le cas des Peace and Love bonobos, où les femelles dominent complètement les mâles, a longtemps été considéré comme une anomalie. Précisons ici que cette dominance n'est pas individuelle, mais collective. Autrement dit, c'est le solide et puissant réseau de solidarité féministe unissant les femelles qui leur permet une telle prouesse dans le monde des grands singes. Pour découvrir l'ampleur du pouvoir femelle dans le monde animal, je recommanderai aux masculinistes un dernier livre, celui de la biologiste Lucy Cook, qui s'intitule « Bitch, le pouvoir des femelles dans le monde animal ». Ce serait une belle façon de réaliser la puissance des femelles chez les éléphants, orques, lions, hyènes, lémuriens, taupes, suricates, bonobos, araignées, etc. Il y a aussi dans ce bouquin une édifiante exploration du rôle du patriarcat scientifique de l'époque victorienne dans la perpétuation des préjugés qui nourrissent encore l'idéologie masculiniste. En cause, des scientifiques de cette époque ont défini la place des femelles dans le monde animal avec les préjugés sociétaux de leur temps. Même Darwin avait cédé à cette vision en tunnel qui fait des femelles des passives et farouches alors que les mâles sont considérés comme passionnés et conquérants. Une grande errance, car dans une perspective humaine, les femelles dans le monde animal peuvent être fidèles, bienveillantes, dominatrices, castratrices, tyranniques, sanguinaires, volages, combatives et même très « bitch », pour reprendre la formule de Lucy Cook. Tout ça pour dire que les masculinistes ont beau appeler la nature pour justifier leur idéologie, les loups, les gorilles, les chimpanzés et les bonobos ne se reconnaissent pas dans leur définition du mâle alpha. La nature est un grand terrain où le sexe, le genre et l'identité sexuelle et les phénomènes de dominance s'expriment dans des nuances de gris. C'était « Nature, masculinisme et mâle alpha », un texte de Boucardiouf, paru le 23 novembre 2024 dans La Presse.
Les boissons végétales, une alternative verte au lait de vache? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse. J'achète de plus en plus de lait d'amande au lieu du lait de vache. Mais est-ce que ça a un fort impact sur l'environnement? Est-ce que je devrais privilégier une boisson végétale plutôt qu'une autre? Demande un lecteur. C'est une question qui passionne consommateurs et scientifiques. Et pour cause, les boissons végétales ont la cote au Québec. Lait d'amande, d'avoine, de coco, de riz, de macadamia, il n'y a jamais eu autant d'options pour remplacer le lait de vache sur les tablettes d'épicerie. Parmi toutes ces options, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et quelques-unes se rapprochent du lait de vache. Souligne, Vijaya Raghavan, professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'Université McGill. En 2017, M. Raghavan a mené une étude qui montre que, d'un point de vue nutritionnel, le lait de soya remporte la palme comparativement aux autres laits végétaux. Du côté environnemental, de façon générale, les boissons végétales ont un moins grand impact que le lait de vache, avance Virginie Drolet-Labelle, nutritionniste diététiste qui examine cette question dans son projet de doctorat à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Mais toutes les boissons végétales ne se valent pas. Différents laits, différents impacts. Par exemple, le soya et l'avoine utilisés dans les boissons végétales sont, pour la plupart, cultivés au Canada. Mais ce n'est pas le cas des amandes, dont la culture demande beaucoup d'eau, et sur des terres qui, souvent, en manquent, comme en Californie, indique Virginie Drolet-Labelle. De même, le lait de riz arrive en tête des boissons végétales en matière d'émissions de gaz à effet de serre et juste derrière, le lait d'amande pour sa consommation d'eau, selon les données de Our World in Data, un site web supervisé par l'Université d'Oxford. Et les boissons de coco ou aux noix de cajou posent problème puisque ces cultures peuvent favoriser la déforestation en Asie, rappelle Catherine Houssard, analyste au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. Bref, pour elle, les meilleures matières premières restent le soya et l'avoine. D'autres éléments à prendre en compte. On estime qu'en considérant seulement la composition, les boissons végétales ont un impact environ deux fois moindre que le lait de vache, calcule Mme Houssard. Mais si on prend en compte le transport, l'emballage, la distribution, est-ce que cela change la donne? Tout d'abord, rappelons une chose. L'impact du lait de vache est principalement attribuable à l'élevage des vaches. Au Québec, il est produit localement et doit parcourir peu de kilomètres pour se rendre à l'épicerie. Bref, le transport ne représente pas une grande part de son empreinte. L'impact de l'emballage, carton, plastique, reste lui aussi négligeable. Par contre, pour les boissons végétales, c'est différent. Certaines sont produites au Québec, mais d'autres non. Et si elles doivent être réfrigérées pendant leur transport, leur impact grimpe en flèche. L'empreinte d'une boisson végétale réfrigérée peut ainsi doubler et même dépasser celle du lait de vache, souligne Catherine Houssard. A contrario, lorsqu'elle n'est pas réfrigérée, la boisson végétale est vendue dans un emballage multicouche qui comprend de l'aluminium, ce qui augmente un peu l'empreinte de l'emballage. Mais cela reste faible, estime l'experte. Enfin, un dernier facteur joue un rôle, l'aromatisation. Un lait d'amande aromatisé au chocolat aura un impact beaucoup plus grand que s'il ne l'est pas, en raison de l'empreinte du cacao, cette fève étant liée à des problématiques de déforestation dans les pays où elle est cultivée. Verdict? Le meilleur choix environnemental pour Virginie Drolet-Labelle? Le lait de soya, puisqu'il permet un apport en protéines équivalent au lait de vache pour un impact environnemental moindre. Pour Catherine Houssard, le lait d'avoine peut aussi être considéré, à condition qu'il soit enrichi en protéines. Selon elle, l'idéal est d'opter pour une boisson produite au Québec, issue de cultures locales et non réfrigérée. Dans les deux cas, les experts te conseillent de choisir une boisson enrichie en calcium et en vitamines et non aromatisée et non sucrée. Mais bien sûr, tout dépend des intolérances alimentaires, des besoins nutritionnels et des goûts de chacun. C'était les boissons végétales, une alternative verte au lait de vache? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse.
Quelques 39 millions de dollars pour du logement autochtone au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut. Un texte de Denis Laure, paru le 1er novembre 2024 dans l'Aquilon. Le 23 octobre, la ministre des Services aux Autochtones et de FedNord, Patty Ajdou, et le président-directeur général Logement Coopératif National Autochtone Inc., NICHI, John Gordon, ont annoncé un financement de 39 millions de dollars pour du logement autochtone au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut. Quelques 13 millions de dollars seront versés au Nunavut pour des projets respectivement menés par le YWCA Agvik Nunavut, Butler Affordable Housing et la société Ukuak Society, basée à Iqaluit, et par la société Pairigit Tigum Miak Tikut. La somme de 26 millions de dollars sera versée pour 7 projets des territoires du Nord-Ouest. 3 de ces projets de logement seront basés à Fort Simpson, 2 seront gérés par la société d'habitation Cachot-Gautin et l'autre par la section locale 52 de l'association Métis. La société Tsiu-Nda à Hay River, aussi connue sous le nom de Première Nation de West Point, une organisation Tlicho et la bande d'aînés de Na'anibuté sont les autres bénéficiaires. Beaucoup de demandes. Officiellement constitué en 2022, NICHI est un organisme national d'habitation dirigé par des Autochtones de l'ensemble du Canada. Les fournisseurs de logements autochtones mérite d'être défendu par les Autochtones à l'échelle nationale, a commenté par voie de communiqué le PDG de l'organisme, John Gordon. En obtenant cet investissement et en élaborant un processus de financement pour les Autochtones par les Autochtones, NICHI remet les Autochtones en charge des politiques en matière de logement pour notre peuple et nos communautés. L'expression écrasante du besoin que nous avons reçu dans notre processus de demande, totalisant 2 milliards de dollars pour 447 demandes, démontre que le travail est loin d'être terminé. C'était quelques 39 millions de dollars pour du logement autochtone au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut, un texte de Denis Laure, paru le 1er novembre 2024 dans l'Aquilon.
Nos enfants sont-ils plus difficiles qu'ailleurs? Un texte de Francis Vaille, paru le 4 mars 2024 dans La Presse. Selon les enseignants, nos classes régulières sont devenues plus lourdes, notamment aux primaires, et les ressources sont insuffisantes. Dur constat. Mais comment expliquer ce présumé phénomène inquiétant et comment le régler? Notre réseau est-il déficient? Nos enfants sont-ils plus difficiles qu'ailleurs? Les parents sont-ils en cause? Cet enjeu de la composition de la classe a été au cœur des négociations patronales syndicales, mais il n'a pas été réglé à la satisfaction de bien des enseignants, à voir les résultats serrés des assemblées syndicales. D'abord, évacuons un point majeur. Au primaire, ce n'est pas l'écrémage des élèves qui serait responsable de l'alourdissement des classes. Au secondaire, oui, la part du privé et des écoles à vocation particulière, internationale, sport, etc., est manifeste.
Selon des données de Statistique Canada, 22 % des élèves d'âge secondaire du Québec ne fréquentent pas l'école publique, préférant le privé. C'est le double de la moyenne canadienne, 11 %. Aucun doute que ce phénomène a un impact sur la composition de nos classes dites régulières au secondaire. Ce n'est pas le cas au primaire. Ici, seulement 6 % fréquentent le privé au primaire, la même proportion qu'il y a 10 ans, et la part des enfants sélectionnés dans le programme d'éducation internationale au public n'est pas dramatique, moins de 2 %. Le Québec n'est guère différent du reste du Canada. Les enfants d'âge primaire qui ne fréquentent pas le public s'élèvent à 7 % en moyenne au Canada. La Colombie-Britannique est au sommet, avec une proportion de 15 % au privé. Mais alors, si ce n'est pas l'écrémage, qu'est-ce qui rendrait nos classes du primaire plus difficiles? Il y a autant de ressources ici qu'ailleurs, sinon plus, selon ce que je rapportais dans une précédente chronique. Faut-il déduire que nos enfants de 5 à 11 ans sont plus turbulents, troublés et anxieux qu'ailleurs, et donc plus exigeants pour les enseignants? Pas selon ce qu'on peut conclure des chiffres disponibles de Statistique Canada. Selon l'agence, le Québec est la province qui compte la plus faible proportion d'enfants du primaire avec des problèmes de santé mentale, 2,1 % contre 3,9 % en Ontario et 5,5 % en Colombie-Britannique en 2019. C'est une bonne nouvelle. Les troubles d'anxiété? Au primaire, la proportion au Québec est semblable à celle du reste du Canada, 3 % en 2019 contre 3,1 % en Ontario et 4 % en Colombie-Britannique. Et bien que cette part ait augmenté depuis la pandémie, elle demeure un peu plus basse au Québec, selon les recoupements de données disponibles. Mais alors quoi? Ce qui est clair, c'est que le nombre d'enfants qui a reçu un diagnostic de EHDAA, élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, a bondi ces dernières années. En une décennie, le nombre de ces EHDAA intégrés aux classes ordinaires a augmenté de 46 %. Il est passé de quelque 125 000 à 183 000 entre 2013 et 2022, primaire et secondaire confondus, selon des données de l'Institut de la statistique du Québec. Un tel bond est de nature à alourdir les classes. Impossible de comparer spécifiquement cette donnée avec le reste du Canada. En revanche, un relevé de Statistique Canada indique que la proportion d'enfants du primaire qui a reçu un diagnostic de difficulté d'apprentissage par un professionnel de la santé est plus élevée au Québec, 8,9 % que la moyenne canadienne, 7,2 % Mais une question émerge. Ce taux déclaré plus élevé au Québec s'explique-t-il par de réels problèmes plus importants d'apprentissage ou par un système qui multiplie les diagnostics? Y a-t-il surdiagnostic? C'est, en tout cas, ce que démontrent plusieurs études, notamment celles sur les TDAH. En 2017, un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, a secoué le milieu. Selon l'étude, 14 % des 10-12 ans du Québec prenaient alors des psychostimulants liés au TDAH, comparativement à 5 % ailleurs au Canada. L'écart est énorme. La chercheuse Marie-Christine Brault de l'Université Laval a fait un constat semblable. En 2018, 18 % des jeunes Québécois avaient reçu un diagnostic de TDAH, 7 fois plus qu'en Belgique, 2,5 %. Elle se demande si le Québec n'a pas poussé trop loin la prévention précoce. On ne veut pas prendre de risques avec les enfants. À la maternelle, dès qu'un enfant ne répond pas aussi bien, par exemple en lecture, on identifie un problème. Lui laisse-t-on une réelle chance? Tous ne se développent pas au même rythme, dit-elle. une autre équipe de chercheurs dont fait partie l'économiste Catherine Haïk a fait une découverte ahurissante après avoir analysé le cas de 800 000 enfants. Les diagnostics de TDAH sont nettement plus grands dans une classe chez les enfants qui sont plus jeunes. Concrètement, la proportion est de 21% chez les enfants plus jeunes, nés avant la date qui détermine le niveau scolaire, soit le 30 septembre, que les plus vieux, nés en octobre, 15%. Dit autrement, le tiers des diagnostics est lié non pas à un réel TDAH, mais à l'immaturité des enfants. C'est beaucoup de pilules de trop. Le TDAH est le seul des 9 diagnostics recensés par les chercheurs, asthme, allergie, dépression, etc., à présenter de telles différences liées au mois de naissance. Autre élément intriguant dans cette étude, la probabilité d'avoir un TDAH en région est beaucoup plus élevée qu'à Montréal, 20 % contre 11 %. Il semble donc y avoir une culture du TDAH en région, que Catherine Haïk explique par des pratiques parentales différentes, liées possiblement à la plus forte proportion d'immigrants à Montréal. Les parents auraient quelque chose à voir, donc, comme le réseau d'éducation, nommément les enseignants et les directions d'école. Le sujet de la composition des classes aux primaires est majeur. Il mérite qu'on s'y penche sérieusement dans un contexte plus serein que celui des renouvellements de conventions collectives. Les chercheurs se plaignent toutefois du manque de données. Plusieurs autres questions sont sans réponse. Est-ce le niveau d'exigence à l'école qui a augmenté? Est-ce les heures trop nombreuses passées devant les écrans? Est-ce la moins grande disponibilité des parents vu leur participation record au marché du travail? Et une question délicate. Est-il possible que la fréquentation de la garderie en très bas âge, par exemple à 6 mois ou moins, ait une incidence sur l'anxiété des enfants et les difficultés éventuelles de comportement au primaire? À n'en pas douter. C'est un travail pour le nouvel Institut national d'excellence en éducation. C'était « Nos enfants sont-ils plus difficiles qu'ailleurs ?» Premier de 2 articles, un texte de Francis Vaille, paru le 4 mars 2024 dans la presse.